RCF. Bonjour à toutes et à tous. Parlons un peu d'Europe, puisqu'en 2024, en dehors de JO, il y aura aussi une élection européenne. Et nous serons appelés à nous prononcer pour élire le Parlement européen. Une élection qui ne passionne pas beaucoup de monde en règle générale. Et pourtant, cette année 2024, plus que d'autres années, sera primordiale pour l'avenir de l'Europe. Sans faire de catastrophisme à la BFM, il est important de noter que l'Europe traverse en ce moment une forte zone de turbulence. Turbulence, allez-vous me dire, et ce depuis quelques années déjà. La Grèce d'abord, puis le Brexit, puis la crise migratoire faisant surgir du passé les vieux démons xénophobes des placards, car tout ce que l'on ne connaît pas fait peur, tout ce qui est loin est suspicieux. Je ne vous parle pas de la Covid qui est venue bouleverser les équilibres européens, sans parler bien évidemment de la guerre en Ukraine. L'Europe de 2018 a changé et a changé en profondeur tout en ne changeant pas. Un sacré paradoxe. Il suffit d'ailleurs de regarder comment réagit notre société dans sa manière de consommer, de vivre. Aujourd'hui, on parle de circuits courts, on parle de démondialisation, on veut des services publics de proximité plus efficaces. IKEA implante des petits magasins dans ses centres-villes. Carrefour propose de récupérer les commandes dans des drives, dans les Carrefour Market, au plus proche des gens. Et l'Europe, elle, paradoxalement, continue à être loin de toutes et de tous. Comment alors voulez-vous que nos concitoyens s'y intéressent ? Car rappelez-vous ce que je disais à l'instant, tout ce qui est loin fait peur. Alors comment construire une politique européenne qui semble, de là où l'on est, complètement hors sol ? Plusieurs solutions s'offrent à nous. Premièrement, une réforme européenne qui inclurait dans notre millefeuille représentatif de vraies circonscriptions européennes et donnerait ainsi aux députés un vrai mandat, une vraie visibilité. Deuxièmement, d'avoir un vrai parti européen avec un programme unique donnant ainsi de véritables enjeux dans l'élection, car qui connaît aujourd'hui le programme du PPE, du PSE et j'en passe. Enfin, et pourquoi pas, dans toutes les utopies que l'on pourrait avoir, un président des États-Unis d'Europe. Mais je vous rassure, on n'y est pas. D'ailleurs, on n'y est pas forcément dans les deux premières solutions aussi. Alors, au-delà de tout cela, l'unité européenne passe par quoi ? Est-ce que l'unité européenne ne passerait pas par la construction d'une Europe liée à notre engagement à tous, de notre souhait de rencontrer l'autre, de penser l'Europe quand on pense uniquement pour sa région ou pour sa ville ? Car les solutions des uns sont les solutions de tous. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver sur RCF pour ce nouveau numéro de l'écho des solutions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et je suis ravi de vous le dire et de vous l'annoncer. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast, bien évidemment, ainsi que toutes les rubriques de l'écho des solutions. Vous le savez peut-être moins. En tout cas, nous, on est très heureux cette semaine d'aborder avec tous nos invités la question du déterminisme social chez les jeunes et particulièrement chez les jeunes européens. Le jeudi dernier se tenait le rendez-vous Young Inspiring Europe avec la fondation Hippocrène, qui seront d'ailleurs nos invités de l'invité écho de cette semaine et qui nous a permis et qui va nous permettre de relancer cette question que nous avions évoquée déjà l'année dernière, la question du mentorat chez les jeunes pour lutter contre justement la précarité étudiante, la pauvreté, mais aussi le déterminisme social chez les jeunes. Nos invités, ce seront Animafac, Lafèvre, Article 1, tous les trois ensemble, nous essaierons d'évoquer cette question et de la place du mentorat. 7 minutes pour changer le monde, comme toutes les semaines à la fin de cette émission. Et puis, bien évidemment, nos chroniqueurs préférés, Maxime Dupont et Pierre Collignon. Mais comme je vous l'annonçais, on retrouve tout de suite, comme invité écho de cette semaine, Dorothée Merville, présidente de la Fondation Hippocrène, qui nous évoque justement la place des jeunes en Europe et l'action de l'écosystème Young Inspiring Europe. Dorothée Merville est notre invitée écho de cette semaine.
L'invitée écho, Patrick Longchamp.
Voilà, je suis avec Dorothée Merville, qui est l'une des deux déléguées générales, puisqu'elle est à la tête d'une fondation qui s'appelle la Fondation Hippocrène et qu'elle co-dirige avec son frère Alexis Merville. Dorothée, Alexis Merville, la Fondation Hippocrène sont des partenaires d'RCF depuis de nombreuses années, mais ce jeudi se tenait à Paris le troisième anniversaire de l'écosystème Inspiring Young Europeans, un écosystème qui regroupe toutes les associations que vous soutenez de près ou de loin, Dorothée Merville. On parlera peut-être de la Fondation Hippocrène, mais ces trois ans, c'était important pour vous de les souligner dans cet événement qui a permis de regrouper finalement tous ceux et toutes celles que vous accompagnez régulièrement.
C'était un moment effectivement important pour nous parce que pendant trois ans, on a co-construit ensemble avec 19 membres, 19 associations avec lesquelles on avait l'habitude de travailler depuis plusieurs années. Et c'est vrai que la co-construction à 19, ça prend du temps. Et ce troisième anniversaire, ça marquait en fait le fait qu'on s'ouvre à l'extérieur, qu'on se présente à la fois à des partenaires et à des associations de l'ensemble des membres. Donc c'était effectivement symboliquement très important pour nous.
Quelle était l'idée au départ, il y a trois ans, de créer cet écosystème, de co-construire un écosystème de jeunes, d'activités, d'actions à destination ou avec d'ailleurs de jeunes Européens?
Notre objectif, quand on a lancé cet écosystème, quand on en a parlé à ces 19 associations, c'était de se dire, la Fondation a presque 30 ans. Notre idée, c'est de donner le goût de l'Europe aux jeunes et on donne des conseils à des associations de manière individuelle et on les incite aussi à travailler ensemble. Et finalement, on s'est dit, elles ont du mal à le faire et donc on va les accompagner et on va faire en sorte que toutes ces associations que l'on ressent comme complémentaires, on va les inciter à travailler ensemble pour avoir plus d'impact, pour être plus créative et avoir plus de financement européen aussi au bout du compte.
Mais oui, parce que la clé de tout reste à un moment donné le financement européen et il n'y a que celles et ceux qui savent vraiment ce qu'est un dossier de subvention européen, qui peuvent comprendre tout l'enjeu de votre projet et de votre écosystème. On le verra d'ailleurs à la fin de cette émission avec Guillaume Callot des Arc Film Festival, ce qu'est une association qui œuvre pour l'Europe. Donc la Fondation Hippocrène, l'écosystème est le pendant de la Fondation Hippocrène que vous dirigez avec votre frère Alexis Merville, fondation familiale qui accompagne les projets européens. Alors en sortant de l'écosystème, ça accompagne plus largement d'autres projets?
Effectivement, la Fondation Hippocrène soutient une quarantaine de projets chaque année, porté par des associations dont certaines sont récurrentes, d'autres sont nouvelles et qu'on soutient ponctuellement. Et par ailleurs, on a aussi créé le prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe. Donc on a parfois des activités culturelles également en fonction des années, ça peut varier, mais on a une activité effectivement plus large que l'écosystème.
Alors ce prix, justement, parlons-en, il a été lancé lors de cette soirée aussi, le prix de la Fondation Hippocrène. Dites-nous-en un petit peu plus, qui peut postuler, ça va commencer quand, quel type de dossier vous allez soutenir? Dites-nous en plus, Dorothée, on est curieux.
Alors c'est vrai que c'est un moment important aussi cette annonce du prix des associations, c'est-à-dire que on avait l'habitude jusque-là, on avait créé il y a plus d'une dizaine d'années un prix pour les scolaires, et là c'est un prix pour les associations, parce qu'en fait après ces trois ans avec l'écosystème, on s'est rendu compte que, comme vous le disiez, les dossiers de financement européen c'est compliqué, trouver des partenaires dans d'autres pays d'Europe, ça peut sembler compliqué. Et ce qu'on souhaiterait, en fait, c'est inciter un maximum d'associations françaises qui s'intéressent à tous les enjeux de la jeunesse à s'européaniser, à passer à ce niveau Europe. Et donc, le prix, ça consiste à la fois apporter une dotation pour un projet et un accompagnement pour tout type d'association en France.
Alors justement, Dorothée, vous nous disiez toute association en France, mais vous allez crouler sous les dossiers si vous ouvrez à l'ensemble de l'écosystème associatif français qu'on sait pléthorique, un prix à dimension européenne qui va peut-être aussi déboucher après sur des leviers pour obtenir des financements européens.
Ce serait une marque d'un grand succès. Après, je dirais qu'on va voir ça, mais il y a pléthore de prix en France.
On recommence.
Je vais recommencer. Écoutez, ce serait une vraie marque de succès. Nous, on serait ravis de crouler sous la demande. Notre sentiment, c'est que les associations, en fait, ont très envie d'Europe, mais qu'elles ne savent pas forcément comment faire. Et donc, donc si on peut démontrer par ce prix justement cette envie d'Europe, nous serons les plus heureux
de la Terre, j'imagine. Donc pas de ligne éditoriale, simplement l'idée de développer un projet à destination de la jeunesse européenne et qui va permettre de mieux se connaître entre Européens.
Alors, si, il y a bien une ligne éditoriale, c'est le concept général du prix, qui suit ensuite toutes les grandes thématiques d'engagement de la jeunesse et celle de l'écosystème. Alors, on a trois grandes thématiques. On a grandir, étudier, réussir, vivre ensemble et être solidaire et s'engager. Et donc, en fait, en fonction notamment des partenaires que nous allons trouver pour chaque prix, en fait, ce sera des appels à projets thématiques sur une thématique en particulier. Et le prix qui a été annoncé pour notre troisième anniversaire, c'est le premier prix qui donc va être financé par la Fondation Hippocrène, mais qui vraiment espère que d'autres partenaires financiers les rejoindront pour pouvoir lancer plein d'autres prix. Et cette première thématique qui nous semble évidemment cruciale à notre niveau, c'est celle des élections européennes de 2024. Et donc l'appel à projet sera lancé en mai et cela signifie qu'il nous restera un an pour motiver les populations, en particulier les jeunes, à aller voter pour ces élections européennes.
Exactement, c'est ce que je disais d'ailleurs dans mon édito tout à l'heure, au tout début de cette émission, en parlant de cette Europe qui est à la fois si loin et si proche. C'est assez paradoxal, hein, elle est très éloignée de notre quotidien de pensée et tellement proche dans notre quotidien d'action, puisque beaucoup de projets aujourd'hui dans nos territoires sont aussi et sont financés essentiellement par des fonds européens. Merci beaucoup Dorothée Merville d'avoir été avec nous, notre invitée éco de cette semaine. Bon anniversaire encore une fois à Inspiring Young Europeans. Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Et on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors l'actualité du moment, au-delà de la réforme des retraites qui a saturé l'espace médiatique de ces derniers jours, c'est la journée de la femme, ou des femmes d'ailleurs, il y a de la discussion là-dessus, qui a été célébrée mercredi 8 mars dernier. Dans le monde, les EDC ont-ils fêté cette journée et que pouvez-vous nous dire de cela à ce sujet, Pierre ?
La première chose à dire, c'est que les EDC, comme à peu près je crois tous les mouvements professionnels existants, constatent avec plaisir l'augmentation des femmes dans l'ensemble de ces activités. Les femmes chefs d'entreprise sont de plus en plus nombreuses au sein du mouvement et l'équipe dirigeante reflète bien cette évolution avec deux vice-présidentes, une déléguée générale et une trésorière nationale. Cette tendance est également marquante dans les équipes qui accueillent chaque année un peu plus de femmes. Elles étaient 10% en 2016 et elles sont 16% cette année. C'est encore trop peu, me direz-vous, mais la dynamique est là.
Alors, est-ce plus difficile d'être chef d'entreprise quand on est une femme ?
J'aime bien la façon dont Karine Forêt, qui est vice-présidente du mouvement des EDC, répond à cette question. Elle dit « Non, ce n'est pas plus difficile que pour un homme. » Et elle ajoute « Si vous êtes célibataire et sans enfant. » Vous voyez, c'est vrai que, et elle le dit, c'est plus difficile si vous avez des enfants et que vous êtes marié, car dans ce cas, il faut vraiment être très bien entouré sur le plan personnel. Et elle ajoute avec humour toujours « Ne pas compter ses heures de sommeil. »
Ce qui veut quand même dire que c'est plus difficile.
Objectivement, oui. Et on peut avoir une réelle admiration pour toutes ces femmes qui arrivent à allier tous les pans de leur vie malgré la gymnastique que cela impose, le souci pour le chiffre d'affaires, pour les payes des collaborateurs, les factures qu'il faut régler, mais aussi les enfants, la cantine à réserver, les vacances à organiser, les vaccins, etc. gare à la surcharge mentale. Et c'est là, je crois, que la foi joue pleinement son rôle. Dans les témoignages des dirigeants d'entreprises que nous avons voulu mettre en lumière aux EDC, toutes manifestent à quel point leur foi est importante pour embarquer leurs équipes, pour ne jamais perdre la fidélité de leurs actions, pour rester debout au milieu des difficultés du quotidien.
Alors, quelle est, selon vous, la valeur ajoutée des femmes dans l'entreprise, Pierre ?
Alors là, objectivement, c'est difficile de répondre sans tomber dans quelques clichés, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est pertinent, je crois, c'est l'exploration de la valeur ajoutée de chacun dans sa singularité. Il est important que chacun puisse trouver et exprimer sa palette de talents, de la force et du leadership chez les hommes comme chez les femmes, de la finesse émotionnelle et de la délicatesse chez les hommes comme chez les femmes, mais aussi pouvoir s'appuyer sur l'autre pour se compléter et grandir.
Alors on est loin ici de l'égalité, de la mixité, de l'équité ou de la parité, qui ne sont souvent que des slogans. Ce qui est important pour vous, si j'ai bien compris, hein, c'est la complémentarité.
Clairement, nous voyons bien d'ailleurs qu'il y a un lien de cause à effet entre performance des entreprises et diversité des salariés. Vous savez, la diversité générationnelle, culturelle, sociale, religieuse, etc. etc. Une diversité bien pensée est souvent porteuse d'une dynamique très féconde, alors que l'entre-soi s'avère dans bien des cas triste et stérile. C'est donc une richesse de travailler hommes, femmes ensemble. Nous ne sommes pas faits de la même manière, nous percevons les choses de manière bien souvent différente. Le partage de nos points de vue nous amène à une décision finale plus équilibrée et plus ajustée. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les femmes.
Merci beaucoup Pierre Collignon. Nous, on continue en musique dans l'écho des solutions avec la playlist qui a été composée par EuropaVox dans le cadre du troisième anniversaire d'Inspiring Young Europeans. On se retrouve nous tout de suite après avec nos invités pour évoquer la question du mentorat.
Tu veux marcher, il y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux parler, tu veux crier, on ne comprendra rien. Tu veux chercher, tu ne trouveras point. Tu voudrais t'envoler, éviter le chemin. Donner aux autres, il n'y aura pas de moi. J'ai la force du moindre petit retard, de dire bonjour, au revoir. La frousse de t'embrasser ce soir, de ne plus sauter dans les flaques, l'espoir de perdre le fil détaché, de vivre à côté que tout soit gâché. La frousse du faire le moindre mètre, sans aimer empêcher disparaître. La frousse du moindre petit mot, celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la fosse. Tu veux voguer, il y aura toujours beaucoup plus loin. Tu veux crier ou chuchoter, on ne comprendra rien. Tu veux trouver, tu ne chercheras point. Tu voudrais t'envoler, éviter les chemins. Donner aux autres, il n'y aura pas de nom. De voir ce qu'il faut voir, combien de jours quand t'arrive le soir. La force de me réveiller dans le noir, de ne plus rêver d'être champion du monde de victoire. La force du moindre petit geste, d'être empêché, remplacé, disparaître. La force de la moindre rencontre, d'être celui qui est pour, qui est contre. La force de la moindre goutte d'eau, qui arrive de la mer, du ciel, oui, d'en haut. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la frousse. Je ne les comprends pas. Je regarde en l'air, je regarde les toits. Et je m'imagine juste tout près de toi. D'ombre et de lumière, de rêves les plus fous. Il faut se le dire, on
Louise Attac, tiré de la playlist EuropaVox 2023, c'était la frousse. Allez, on évoque le mentorat, justement peut-être une solution pour avoir moins la frousse avec tous nos invités. C'était une émission enregistrée en plateau à la Fève autour de la question du mentorat aujourd'hui pour les jeunes.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, on va ouvrir le dossier de l'écho des solutions. Cette semaine, on enregistre, vous le savez, depuis les locaux de la Fève, dans le cadre d'un Afterwork Inspiring Young European, ça y est, j'y arrive, qui est porté par la Fondation Hippocrène et tout un écosystème dont RCF fait partie. On va parler de la question du mentorat chez les jeunes. Je vous ai présenté nos trois invités, Paloma Mérargue, Unice Magando, et Benjamin Blavier d'Article 1 et dans l'ordre Animafac et la Fève. On va évoquer donc la question du mentorat. On va commencer directement par les définitions, parce que le mentorat, je suis pas sûr que ce soit toujours très très bien compris par tout le monde. On peut le placer un peu à toutes les sauces. Alors je sais pas qui veut répondre pour commencer. Si on devait donner une définition du mentorat, qu'est-ce que ce serait? Qui veut répondre? Benjamin, peut-être, si on devait donner pour vous le mentorat, ce serait quoi? Et peut-être que d'ailleurs vous aurez pas tout à fait la même définition, Eunice et Paloma.
Peut-être. Enfin, je pense qu'on s'en rapproche. Il y a des définitions un peu techniques qui existent, mais moi j'en dirais une assez simple. Je pense que c'est un lien qui aide à grandir.
C'est un lien qui aide à grandir. Et pour vous, Eunice, c'est la même chose?
Alors je pense que la particularité du mentorat, c'est que c'est le mentoré qui donne la feuille de route. C'est-à-dire qu'on part des besoins du mentoré, on n'arrive pas avec un programme. Le mentorat, finalement, c'est un accompagnement individuel où une personne se met à disposition d'une autre, qui n'arrive pas avec des compétences a priori. On est là pour accompagner. Et surtout, on installe une relation humaine dans la durée. C'est à partir de 6 mois qu'on considère qu'il y a suffisamment de temps pour que ce soit un mentorat. Et je dirais, pour résumer, pour employer une autre formule que Benjamin, que finalement, le mentorat, c'est le capital social qu'on n'a pas.
C'est-à-dire que... Il faut rester dans l'axe du micro, Tournez un peu votre micro comme ça. Hop. Voilà. Ça. Non, tournez-le vers moi comme ça. En fait, c'est quand vous me regardez.
Je vous regarde alors. Il faut que je fasse comme ça.
Voilà, c'est ça. Mettez un peu la. Voilà. Et normalement.
Désolée, je vais vous tourner le dos.
Non, c'est pas grave.
On pourrait dire que le mentorat, c'est le capital social qu'on n'a pas.
Et pour vous, Paloma, alors, du côté d'Animafac, comment vous le définiriez, vous, le mentorat?
Alors nous, côté Animafac, on est un peu les tout nouveaux et toutes nouvelles à rejoindre le collectif mentorat. Et en fait, quand on a lu pour la première fois la définition du mentorat telle qu'elle est donnée par le collectif mentorat, on s'est dit, mais on a l'impression que c'est ce qu'on fait depuis des années, en fait, chez Animafac, parce qu'on accompagne... plus collectivement que sur la partie individuelle, mais en fait quand on fait du collectif, on se retrouve aussi à faire de l'individuel. Et en fait, c'était génial de voir que c'était une notion qui commençait à être cadrée, qui était prise de plus en plus au sérieux par des acteurs et des actrices.
Alors est-ce que ça veut dire, Benjamin, que tous autour de la table, vous faisiez du mentorat sans le savoir, comme vient de le dire Paloma?
Oui, on s'est longtemps cherché, nos assos existent depuis longtemps, on faisait du mentorat sans le savoir, d'ailleurs on n'avait pas les mêmes termes,
ouais.
On utilisait le tutorat, on utilisait le parrainage par exemple, finalement le terme de mentor était très très peu utilisé, et en fait ça part d'un constat qui est que les jeunes issus de milieux défavorisés en particulier... on pas toujours autour d'eux des personnes qui peuvent justement répondre à des besoins précis.
Qu'est-ce qui a mis tout le monde d'accord sur la notion de mentorat? C'est le gouvernement quand ils ont lancé un jeune à mentor, Eunice?
Alors moi je peux donner quand même une information côté AFEV.
Côté AFEV.
On va basculer dans le mentorat, ce qui permet d'ailleurs de dire que l'AFEV a ceci de particulier, qu'on est aussi une association européenne puisqu'il y a une AFEV Espagne et en l'occurrence une AFEV Barcelone, et en fait ce sont nos collègues barcelonais qui nous ont dit, qui sont rentrés dans un collectif de gens qui faisaient une action qui s'appelait mentorat et qui nous ont dit, vous savez, en fait, ce qu'on fait, ce qu'on appelle nous accompagnement individuel depuis 30 ans, en fait, c'est du mentorat. Et au début, on s'est dit, non, mais le mentorat, oh là là, ça c'est un truc de vieux qui aide les jeunes, qui explique la vie, etc. Nous, on mobilise des jeunes étudiants, ils ont très peu d'âge de différence, en fait, avec ceux qu'ils accompagnent, donc on n'était pas forcément très à l'aise avec cette notion de mentorat. Et force est de constater qu'en écoutant, en fait, les Européens parler de ce qu'ils font, on s'est effectivement comme tu le disais, complètement reconnue dans cette définition européenne du mentorat.
Alors, quelle différence on ferait, vous parliez de tutorat, quelle différence on fait entre mentorat et accompagnement scolaire? Vous êtes tous, toutes les trois associations, on l'a pas dit, mais Animafac, Article 1 et la FEV, vous avez un public jeune, un public étudiant, chacun avec vos points et vos projets associatifs personnels, on les verra un petit peu plus tard dans l'émission. Mais quelle différence on fait aujourd'hui entre l'accompagnement scolaire, ces choses-là qui ont été pendant des années l'apanage des associations caritatives?
En fait, l'accompagnement scolaire est un des sujets sur lesquels il est possible d'entamer une relation de mentorat. Mmh. Mais ça peut être autre chose. Comme on le dit, on part du besoin du jeune qui peut dire j'ai un sujet parce que j'ai besoin d'accompagnement scolaire, j'ai besoin de m'orienter, j'ai besoin de découvrir un métier, je manque de confiance en moi, je ne sais pas m'exprimer à l'oral. Enfin, il y a une foultitude
de sujets
sur lesquels les jeunes peuvent dire à un moment, j'ai besoin d'un coup de main. Et effectivement, l'accompagnement scolaire, c'est souvent un des axes par lesquels on peut commencer, mais l'idée, c'est d'instaurer une relation de confiance qui puisse ensuite évoluer vers, pourquoi pas, autre chose que de l'accompagnement scolaire.
Et alors, Eunice, pourquoi c'est pas du coaching?
Parce que justement, les mentors n'ont pas besoin d'arriver avec des compétences déjà existantes. Ils ne sont pas là pour apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas là pour donner quelque chose de précis qu'ils n'ont pas. Ils sont vraiment là plutôt pour être dans une posture d'accompagnement, de cheminement avec. Et nous, par exemple, on travaille avec des étudiants, donc qui ne sont pas des professionnels, qui n'ont pas forcément des compétences, qui sont encore eux-mêmes en formation. Et une des choses qu'on remarque, c'est que justement, le mentorat est un terrain assez formidable pour développer des compétences des deux côtés, parce que ça apporte évidemment aux jeunes. Alors nous, on travaille, pour préciser un peu les choses, sur une palette assez large d'enfants de 5 jusqu'à 18 ans, sur tout le parcours scolaire. Et on commence maintenant à accompagner le début en L1, au début de l'université.
Vous allez chasser sur les plates-bandes d'Animafac et d'Article 1?
Pas tout à fait, parce que c'est pas exactement pareil. Mais en tout cas, le gros des troupes, par ailleurs, il y a de la place, le gros des troupes est quand même plutôt pour nous sur le parcours scolaire. Donc ça apporte aux deux, c'est ça que je voulais dire.
Alors c'est quoi, Paloma, la force du mentorat pour vous? Qu'est-ce que ça apporte de plus que peut-être d'autres formes d'accompagnement que le coaching ou que l'accompagnement scolaire? C'est quoi les forces du mentorat?
Et ben en fait, nous, la question du mentorat, elle s'est posée au moment où on a développé deux programmes qui sont pas forcément le cœur de mission d'Animafac. Animafac, on a vocation initialement à accompagner des associations étudiantes dans leur professionnalisation et leur développement. Et en fait, au cours des années, on a développé deux programmes. Un programme qui vise à accompagner les jeunes dans leur insertion socio-professionnelle. Via la recherche d'activités, donc un emploi, un stage, un volontariat en service civique, une alternance ou autre. Et un autre programme qui accompagne les jeunes dans leur insertion via la création d'activités associatives. Mmh. Et en fait, dans cet accompagnement-là, qui se faisait majoritairement en collectif, et on misait beaucoup sur le fait que ces jeunes se retrouvent, fassent les choses en groupe, se coachent mutuellement et s'accompagnent mutuellement et se grandissent ensemble. Et en fait, le Covid est arrivé et on s'est rendu compte que dans ce moment-là particulièrement, il y avait ce besoin d'avoir, alors nous on l'appelait référent, référente à cette époque-là, mais d'avoir un accompagnement beaucoup plus individualisé et avec une personne qui n'était pas forcément experte de plein de sujets.
Allez-y, continuez. Vraiment. Il se passe des choses dans la salle, mais c'est normal.
Et avec une personne qui n'était pas forcément experte sur tous les sujets, mais qui était là pour accompagner, pour remotiver.
Et pour vous, la force du mentorat, Benjamin, c'est quoi?
Je dirais que c'est le regard réciproque. C'est intéressant parce que quand on fait de l'accompagnement, on peut être un professionnel de l'accompagnement et se consacrer à ça. Ce qu'il y a d'intéressant dans le mentorat, c'est qu'on fait appel à monsieur ou madame tout le monde quasiment, qui se met dans une relation d'entraide avec un jeune qu'il n'aurait jamais rencontré naturellement. Voilà, parce que notre société ne crée plus ces rencontres improbables. Et donc le bénéfice, il est effectivement mutuel. C'est aussi une manière de rapprocher des univers.
Et pour vous, la force du mentorat, c'est quoi? C'est vrai que c'est cette rencontre, on ne se rend pas compte. Tout le monde peut être mentor,
Bien sûr, tout le monde peut être mentor. C'est important de le dire, ce n'est pas réservé à des gens qui ont certaines compétences versus d'autres. Je pense que c'est la force aussi de l'entraide et de la solidarité. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on raconte beaucoup, parfois un peu le mythe du self-made man ou la self-made woman, que ça n'existe pas. Quand on réussit, c'est souvent parce qu'on a réussi, parce que quelqu'un nous a aidé. Et ce quelqu'un, ça peut être... D'ailleurs, si on pose la question aux gens autour de la table ou dans la salle, puisque nous avons un public.
Oui, on a un public, oui. Il est bien silencieux et bien...
Mais je pense que tout le monde peut se remémorer dans son parcours quelqu'un qui, à un moment donné, à un moment clé du parcours éducatif, nous a aidés à être là où nous en sommes.
Tout le monde peut être mentor. C'est quoi les compétences? On parlera peut-être de ce que ça apporte au mentoré, mais on a bien compris aussi que ça apportait au mentor. Quelles sont les compétences qui sont requises?
Tout le monde peut être mentor, mais au-delà de la question des compétences, il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas encore dit. Une des choses qui garantit en fait le mentorat, c'est que, et c'est la différence entre ce que les Américains appellent le befriending, c'est que c'est pas juste une relation qui se crée comme ça par magie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est organisé par une structure tierce qui va chercher des mentors, qui va chercher des mentorés, qui fait le matching, pardon pour l'anglicisme, et qui va après faire tout l'accompagnement pour que cette relation-là, il y ait quand même des éléments de cadrage, de formation, d'outils, d'évaluation d'impact. Parce que s'il n'y a pas ça, finalement, on a quelque chose de très diffus, d'informel, mais dont on ne peut pas voir l'impact. Aujourd'hui, ce qui fait la force en fait des associations comme les nôtres qui travaillons sur le mentorat...
C'est vous calculer l'impact derrière.
Voilà, on peut tout à fait voir, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on a construit l'ambition du plan Un jeune, un mentor, qui est en train de transformer finalement le mentorat en France et qui donne des exemples ailleurs en Europe. Mais c'est très important de rappeler l'importance de cette structure et des professionnels du mentorat. Dans nos associations, il y a des professionnels du mentorat. Il y a des bénévoles qui sont mentors, mais il y a des professionnels qui organisent cela.
Qui organisent cela, et donc ça pose le cadre qui est nécessaire pour que justement cette relation entre mentoré et mentor se passe bien. Alors vous nous avez dévoilé un petit peu, Paloma, tout à l'heure, le travail que vous faisiez à Animafac. Animafac, donc, accompagner d'abord, dans un premier temps, ça c'est l'idée originale et originelle d'Animafac, accompagner les associations étudiantes.
Et toujours.
Dans le déploiement, dans leur déploiement. Et alors, quelle place aujourd'hui prend le mentorat chez vous exactement?
Ça va un peu se répéter, mais quelle place il prend?
Concrètement, comment ça se passe? Vous repérez, ou les associations étudiantes repèrent des jeunes étudiants qui vont avoir un besoin d'être mentorés? Ce sont des programmes dans lesquels ils peuvent s'inscrire? Comment ça se passe?
Ouais, c'est des programmes dans lesquels les jeunes s'inscrivent. Alors, c'est soit des porteurs ou porteuses de projets qui ont envie de développer leur asso, soit c'est des jeunes qui souhaitent poursuivre leur parcours d'engagement et travailler ou évoluer dans l'économie sociale et solidaire. L'accompagnement, il est collectif, comme je l'ai dit, et on ajoute cette notion de mentorat en leur proposant d'être accompagnés par une ou un mentor tout au long de leur recherche ou de leur création d'activité. Et en fait, c'est marrant parce que les premiers mentors qu'on a eu chez Animafac, c'est des anciens qui ont été accompagnés leur insertion socio-pro et qui sont dit, mais en fait nous, cette relation qu'on a eue avec les référents et les référentes à cette époque-là, elle était hyper importante pour nous, elle nous a vachement aidés, et en fait voilà, c'est un peu le truc de donnant, mais c'est les premiers mentors qu'on a eu.
Donc ça veut dire quoi concrètement? Racontez-nous une histoire. Il y a quelqu'un qui vient et qu'est-ce qui va se passer? Vous lui attribuez tel mentor parce que vous pensez que c'est la bonne personne? Comment ça se passe?
Ouais, alors c'est un peu plus
compliqué, j'imagine, c'est bien pour ça que je pose la question, on veut en savoir plus.
Alors nous, c'est surtout par rapport à l'expérience de vie de la personne, c'est-à-dire que si on a une personne qui cherche à trouver un stage ou un volontariat dans l'économie sociale et solidaire, je sais pas, à Bordeaux, on va essayer de le faire matcher, un peu les termes,
c'est ça, bah oui.
Avec une ou un mentor qui a déjà recherché un stage ou qui a déjà recherché un volontariat en service civique et qui connaît hyper bien l'écosystème de la ville dans laquelle le ou la mentorée souhaite évoluer.
Et alors ça veut dire quoi? Vous faites un appel à un petit fichier que vous avez en disant là, on a une jeune qui arrive, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien un peu la mentorer avec un petit cadre quand même qui est donné pour que ça se passe bien, comme alors, le disait Eunice il y a quelques instants?
Ouais, alors nous on a un questionnaire qui récap toutes les questions, et je pense que toutes les assos ont un peu le même type de questionnaire. Et puis en fait, quand un ou une mentor s'inscrit, c'est pas automatique que le mentorat commence. On attend vraiment d'avoir des profils qui peuvent matcher ensemble. Et ensuite, les mentors doivent passer par une formation. Donc c'est une formation d'une heure et demie, deux heures pour se former au mentorat, quelle posture adopter, etc.
Comment ça se passe chez Article 1? Vos publics cibles, c'est quoi et vous visez quoi avec le mentorat?
Nous, nos publics cibles, ce sont les 16-25 scolarisés, issus de milieux défavorisés. Donc lycéens en fin de lycée, études supérieures, quels que soient
Quels que soient les parcours.
Quels que soient les parcours, bac pro, bac techno, études longues, études courtes, avec ou sans bons résultats scolaires, sachant ce qu'ils veulent faire ou n'en ayant aucune idée, on suit un peu tout le monde. L'entrée, bah, c'est d'aller leur proposer de nous dire quels sont leurs besoins immédiats. Mmh. Donc ils peuvent arriver en disant qu'ils souhaitent des conseils parce que bah, ils n'ont pas le moral et ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas ou ils ont besoin de soutien dans une matière ou ils veulent découvrir un métier. Donc ils listent des éléments. Ensuite, nous, on va les matcher là aussi avec des bénévoles qui disent pouvoir apporter des compétences sur leurs attentes immédiates. Mmh. Et ensuite, on va créer la relation, faire la mise en relation.
Et alors, les jeunes défavorisés, ils arrivent, eux, comment? C'est les écoles qui connaissent Article 1, qui les orientent? C'est des professionnels de l'accompagnement, des assistantes sociales, des services sociaux qui vont orienter vers Article 1 en disant, bon là, je crois que ce serait pas mal que tu ailles les voir parce qu'ils vont peut-être pouvoir te trouver quelqu'un pour t'aider.
Oui, oui, oui. Ben, on a deux sources, mais après, chaque asso peut avoir ces modalités, hein. Nous on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on va les chercher en direct,
ouais, d'accord, voilà, ok.
Essentiellement. Et ensuite on travaille avec des établissements partenaires. Donc là effectivement, souvent des enseignants dans les lycées les plus défavorisés, dans les universités partenaires, dans certaines prépas qui accueillent des publics boursiers plus massivement que d'autres. Là on travaille avec les enseignants qui invitent les jeunes à s'inscrire sur la plateforme.
Et à la FEV alors, donc là, alors vous commencez, vous êtes beaucoup plus large, vous commencez dès 5 ans, ça veut dire que dès la maternelle, on peut avoir la maternelle ou le début du primaire, on peut avoir besoin d'un mentor?
En fait, nous, on voit vraiment le mentorat comme un outil de ce qu'on appelle la sécurisation des parcours éducatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, l'idée, c'est que les jeunes, on travaille vraiment, la particularité de la FEV, c'est qu'on a un fort ancrage territorial. La FEV est partout, à peu près sur le territoire français, présente à un petit trou en centre Val-de-Loire. Et on a des équipes qui sont sur place et qui organisent le mentorat donc pour des enfants qui sont très jeunes sur tout le parcours éducatif, avec cette idée qu'il y a pour des enfants donc très jeunes jusqu'à moins jeunes, mais qui restent jeunes, et avec l'idée qu'il y a des moments qui sont charnières dans le parcours éducatif et qui sont toujours fragilisants, a fortiori pour les jeunes de milieux populaires dans les quartiers prioritaires où nous intervenons. Nous sommes toujours sur l'éducation prioritaire, et donc ces moments-là vont être durs, en fait, pour n'importe quel élève, et en particulier pour ceux-là. Donc l'idée de commencer sur la grande section de maternelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de dire que l'une des premières fractures éducatives, elle se situe pour les enfants, en fait, qui arrivent au moment de l'apprentissage de la lecture et l'écriture, et qui arrivent alors que d'autres savent déjà lire parce qu'il y a des livres à la maison, qu'on lit des histoires, qu'on parle, etc. Chez eux, en fait, ça va être très difficile. Donc on fait cet accompagnement vers la lecture pour emmener vers la bibliothèque, familiariser vers le livre. Et donc ce sont des choses qui ne sont pas purement scolaires, mais qui vont permettre après, en fait, en réalité, d'enrichir et de sécuriser le parcours éducatif,
la totalité du parcours. Donc, et vous les suivez sur le long terme?
On les suit deux ans, c'est important. On travaille avec les partenaires des territoires, plutôt, alors beaucoup les établissements scolaires, effectivement, écoles, collèges, lycées. On a aussi des partenaires territoriaux au niveau des villes. Et on fait un ciblage. Alors nous, on travaille avec un mode opératoire un peu différent, effectivement, d'Article 1 là-dessus. On passe toujours par des prescripteurs, on passe toujours par des tiers pour repérer les enfants et les jeunes qui vont bénéficier du mentorat. Et puis, parallèlement à ça, on fait la mobilisation étudiante. Mmh. Et on a aussi de gros volumes parce que, voilà.
Donc là, c'est des étudiants qui ont envie de donner un peu de temps et qui veulent s'engager.
Alors, c'est important de dire ici quelque chose, c'est que contrairement aux bêtises qu'on entend parfois sur la jeunesse, vous parliez tout à l'heure de la jeunesse enthousiaste, c'est bien que vous l'ayez mentionné comme ça. La jeunesse en France a envie de s'engager. Mmh. Ça fait 30 ans qu'on existe, ça fait 250 000 étudiants qui sont passés par la FEV. Donc je voudrais dire ce chiffre, parce qu'au-delà de la FEV, ça raconte quelque chose du désir d'engagement. Donc c'était ça le challenge de départ de la FEV. Et je pense que ces 30 ans nous ont donné raison dans l'idée de dire que oui, les jeunes ont envie de s'engager. Après, quel cadre on leur propose? C'est ça la réflexion, et je pense que c'est ça aussi qui nous anime ici.
Alors,
le mentorat en est un.
Ouais. Alors on voit que le mentorat tel que vous le portez, hein, vous, c'est contre les inégalités, c'est-à-dire lutter contre les inégalités, soit les déterminismes sociaux, soit des inégalités qui se créent. Je pense peut-être à Animafa, que vous avez peut-être été aux premières loges avec la pandémie, avec toute la précarité étudiante, avec toutes les dépressions étudiantes, hein, qui sont nées de l'isolement qui ont été créées. Est-ce que ça veut dire que, c'est peut-être plus politique, hein, ce que je veux dire, mais que la société contemporaine telle qu'elle se construit aujourd'hui fait que le mentorat a émergé parce qu'il y avait de plus plus en plus de publics qui avaient besoin d'être mentorés, là où peut-être à l'échelle d'une famille, d'un parent, d'un oncle qui pouvait être finalement le mentor ou d'un instituteur, on n'a plus cette possibilité d'accompagnement. Benjamin, je vous sens...
Oui, c'est étonnant de voir d'ailleurs à quel point les assos de mentorat se sont structurés en France, ailleurs aussi en Europe, hein, on va en reparler.
On en parlera, bien sûr.
France, en France, beaucoup. Ouais. Donc, ça veut bien dire effectivement qu'il y a...
Il y a un besoin.
Bon, chacun son interprétation. Moi, je pense que ça vient du fait, en partie, qu'on en a longtemps trop fait peser sur les épaules des enseignants.
Voilà, ouais.
On s'est longtemps...
On fait tout peser sur les enseignants, l'éducation, le mentorat...
Les... Sur le hussard noir de la République, sur celui qui va aider le jeune enfant de paysan à passer son bac. Le constat, c'est que les enseignants sont les premiers militants de la réussite pour tous. Et il faut absolument respecter cet engagement-là. Mais ils ne peuvent pas tout faire. Un enseignant, il ne peut pas expliquer quels sont les métiers. Il ne peut pas ouvrir des portes quand lui-même n'a pas de réseau. Il va avoir du mal à mettre en confiance quand les jeunes n'ont pas d'exemple de réussite autour d'eux pour les inviter à faire des études longues. Et puis, je pense en plus aussi, bien sûr, à la question des moyens. Mmh. Quoi qu'on en dise, la question des moyens, elle reste complètement posée pour l'accès aux études pour les jeunes les plus défavorisés.
On est dans une émission économique. Quelle est la place avec le monde économique, avec le monde de l'entreprise? Alors vous, c'est peut-être plutôt le monde étudiant. Vous avez peut-être moins de liens.
Oui, je voulais juste peut-être
allez-y,
Benjamin, là-dessus. Sur la question des inégalités, c'est important. On est dans un des systèmes scolaires en France les plus inégalitaires. Et en plus, la crise a effectivement aggravé les choses. Et je pense que c'est très important de réaffirmer ce message qu'il y a vraiment besoin de faire corps commun, collectif, autour de cette question des inégalités, mais vraiment de rassurer les enseignants sur le fait qu'on ne va pas les remplacer.
C'est ça.
Ce que tu disais, hein, c'est-à-dire que vraiment, c'est extrêmement complémentaire.
C'est complémentaire.
C'est complètement complémentaire. Et les enseignants, quand ils comprennent ça, ils le comprennent même parce qu'ils voient après l'impact bénéfique pour leur métier. Mmh. Donc, c'est vraiment important de le souligner.
Le rapport avec le monde économique, le monde de l'entreprise, on peut aller chercher des mentors. C'est là que vous allez chercher votre source de mentors. Parce qu'on sait que le monde de l'entreprise... Ça reste une dynamique actuelle, mais tant mieux, hein, d'ailleurs, avec les entreprises à mission, avec le rapport RSE, le bien-être des salariés. On sait que l'engagement du collaborateur à l'extérieur de l'entreprise est un des éléments qui aujourd'hui est porté par beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants.
Bien sûr, mais j'allais même dire les entreprises et au-delà. Il n'y a pas de raison que ce soit réservé aux entreprises. On peut être fonctionnaire, on peut être artisan, on peut être étudiant et on peut tout à fait être en capacité de s'engager. Ce qui est intéressant dans le mentorat, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, ça a été porté soit par des assos étudiantes qui engageaient des étudiants, soit par quelques assos qui ont engagé des gens issus du monde professionnel, comme Article 1 et d'autres, parce que l'État n'avait peut-être pas exactement compris ce qu'on pouvait faire avec le mentorat. Et donc, pendant longtemps, ça a été réservé à des cadres sup qui avaient un petit peu de temps à accorder à des jeunes plutôt, comme on dirait, méritant, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre autour du terme. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout le monde peut le faire.
Alors, tout le monde peut le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, demain, je vais être mentor? Par où je commence? Il y a un endroit qui centralise un petit peu l'envie d'engagement, Eunice? Nice.
Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Un jeune, un mentor.
Ah oui, alors ça, c'est clair, au moins.
Donc là, au moins, ça, voilà. Ça fait le job, quoi. Non, c'est plus sérieusement, il y a eu l'essor dont on parlait du mentorat en France est important. Et les trois associations qu'on représente sont toutes les trois membres d'un collectif qui s'appelle le collectif mentorat, qui s'est créé il y a maintenant 2 ans, c'est assez récent, pour justement pouvoir pousser sur la question développement du mentorat.
C'est combien d'associations aujourd'hui?
C'est bientôt 60 associations. Au départ, il y en avait 8 fondatrices, dont Article 1 et Lafèvre. Et on s'est réunis, un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, à l'image de nos collègues catalans, mais je voudrais aussi dire qu'il y a une grosse association en Europe qui s'appelle Mentoring Europe et qui réunit plus de 500 professionnels du mentorat. Donc, on s'est dit, en France, on est quelques-uns, on se connaît plus ou moins bien, on fait des choses qui pourraient répondre à la définition du mentorat et en fait, on pourrait quand même aller beaucoup plus loin. Donc, réunissons-nous. Allons discuter avec l'État et finalement, je l'ai fait un peu vite, quelques épisodes après, ça a produit le plan Un jeune, un mentor, qui a même été porté au plus haut niveau de l'État, puisque le président de la République a lui-même affirmé qu'il croyait au mentorat, qu'il avait envie de le développer. Donc, il y a des moyens importants qui ont été mis sur la table. Il y a eu une première année de plan de développement du plan de mentorat. Et donc, on arrive aujourd'hui à 100 000 jeunes qui sont mentorés. C'est important parce que ça se voit pas. Le mentorat, c'est diffus. Ça se passe dans les entreprises, dans les familles. Donc là, c'est important de le dire. Et la vision, là, le but, c'est d'aller à 200 000 et à peut-être un jour, d'ici quelques années, 500 000.
Et 500 000. Est-ce que c'est... Je sais que c'est une des questions que vous portez avec le collectif emploi. Ça doit être un droit... mentorat, pardon, collectif. Le collectif emploi, on le recevra peut-être, mais alors dans une autre émission. Mais il existe aussi. Le collectif mentorat, est-ce que ça veut dire qu'il faut créer une sorte de droit au mentorat?
Il a déjà été créé, c'est bien, on peut s'en féliciter. Et non, je le dis parce que c'est assez sérieux. En fait, on a fait nos deuxièmes assises du mentorat
il y a quelques jours,
récemment, exactement. Et on a porté, ça n'a pas échappé que nous sommes en campagne d'élection présidentielle.
Donc tout le monde s'y intéresse.
Donc cette idée quand même que, en fait, le mentorat, son impact social a été prouvé. On est dans une émission d'économie, donc je voudrais dire quand même qu'en termes de coûts évités, c'est aussi intéressant. On pourrait aller plus loin, mais on a tous fait des évaluations, etc. Je pourrais rappeler, le coût du décrochage scolaire avait été évalué à 230 000 euros. Donc on voit très bien comment le mentorat n'est pas magique, mais il peut vraiment être un levier structurant contre tout ça. Et donc là, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Ben non, on parlait. Mais c'est pas grave, ça me permet de rebondir aussi sur cette question de l'Europe. Vous parliez de European Mentoring, c'est ça? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut encore retravailler toute la question du mentorat au niveau européen? C'est-à-dire, est-ce que chaque pays va avoir aujourd'hui sa propre définition? Il y a encore un travail collectif à faire au niveau européen?
Alors, le but, c'est justement qu'on évite cet éparpillement de chaque pays à sa petite chapelle et sa définition du mentorat. Et c'est le travail remarquable qu'a fait ce collectif Mentoring Europe, dont nous sommes d'ailleurs membres, en tout cas FEV et Article 1. Ce qui est intéressant, c'est que le mentorat s'est invité dans l'agenda européen, puisque assez récemment a été, c'est un peu technique, mais c'est important de le souligner, a été porté notamment par des parlementaires européens comme Ilana Sicurel, qui s'est beaucoup investie sur cette question du mentorat. L'idée qu'il faut maintenant pousser sur une compétence, je vais le dire un peu vite, mais une compétence éducation pour l'Europe, avec un espace européen de l'éducation qui est assez nouveau, et surtout sous l'angle en fait des compétences. C'est ça qui est intéressant. Avec cette idée que, avec le mentorat, on l'a dit, les mentors et les mentorés développent des compétences, ces compétences pourraient être beaucoup mieux reconnues. Et donc, ça va être effectif en 2025.
Encore un peu de temps. Vous êtes sereine si jamais on venait à changer de gouvernement sur la question de la pérennité. Non, mais ce ne soit pas un énième plan jeune venant successivement se mettre à la queue leu-leu de tous les plans jeunes qui ont été faits.
Il y a de quoi ne pas être serein. Évidemment, on a tous fait des efforts énormes. On s'est vraiment investi fortement. Il y a vraiment une énergie collective remarquable. Je crois que ce serait pas seulement pour nos associations, mais pour les jeunes qui sont accompagnés, absolument catastrophique comme signal envoyé à la jeunesse et à la société dans son ensemble après un an, après deux ans de déconstruire tout ce qu'on a réussi à faire ensemble. Donc bien sûr qu'on est extrêmement
jagué
sur cette question.
Vous êtes serein, vous, sur cette...
Oh, pas mieux, comme eux disent, pas une sérénité absolue. Après,
En tout cas, ce qui est prouvé, c'est que ça fonctionne et qu'il y a un impact. Vous parliez de la mesure d'impact.
Exactement.
C'est pas juste un plan derrière un autre plan. Il y a aujourd'hui des résultats.
C'est un métier. Effectivement, on est sorti de l'ornière qui consistait à croire qu'il suffisait de mettre quelques personnes de bonne volonté en face l'une de l'autre pour que ça marche. C'est pas ça. C'est un métier. On peut faire de la mesure d'impact. Les coûts évités sont importants. Je peux citer un chiffre aussi. Nous, sur les jeunes que nous accompagnons en L1, on fait baisser de 40% le risque de décrochage scolaire.
C'est énorme.
C'est énorme. Ouais. Donc il ne faut pas être grand financier pour faire les quelques calculs qui vont avec. Donc il y a tout intérêt à investir dans le mentorat.
Paloma, sérénité, envie de développer de nouveaux projets sur la question du mentorat avec Animafac. Il y a des choses dans les besaces?
Alors, je vais pas opposer sérénité et envie de développer de nouveaux projets.
Non, mais parce que les deux ne vont pas de pair toujours.
Non, sur la question de la sérénité, un peu comme tout le monde, on attend. Ce qui nous empêchera pas de développer de nouvelles choses et de continuer sur ces actions de mentorat.
Voilà. Puis 60 associations dans le collectif mentorat qui risquent d'ailleurs de continuer à grossir parce qu'il y en a qui vont peut-être entendre cette émission en disant finalement on fait du mentorat, donc on peut venir sonner à la FEV.
Collectif
mentorat. On trouve ça sur internet. J'en suis certain. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités du dossier de l'écho des solutions. On fait une micro-pause, on se retrouve tout de suite après.
Maxime Dupont.
Il est temps de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique Un Max d'écho. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Allez, c'est parti pour un petit voyage dans le futur que vous nous invitez aujourd'hui à faire. Et vous nous invitez à le faire où, Maxime?
Dans le futur des emplois.
Ah ouais?
Dans le futur du travail, avec les résultats d'une étude de France Stratégie qui a identifié les métiers qui vont le plus recruter dans les prochaines années, entre aujourd'hui et 2030, Pour avoir une idée de l'échelle des besoins, on va parler dans chaque cas de centaines de milliers d'emplois.
Alors, comment expliquer tous ces recrutements, Maxime ?
Par l'évolution de l'économie, bien sûr, avec des secteurs plus ou moins porteurs, le vieillissement de la population par exemple, mais aussi et surtout par le grand nombre de départs à la retraite dans les années qui viennent. Vous voyez, même quand on veut y échapper, on est ramené à l'actualité plus immédiate.
Alors, si j'ai envie de changer de métier, dites-moi quelle orientation je vais devoir choisir, ou je pourrais choisir surtout.
Eh bien Patrick, il faudra aller vers des métiers de service, bien sûr, dont la croissance explique toute la croissance des emplois à venir. Service aux entreprises ou aux personnes, les deux voies sont possibles. Si vous préférez travailler côté entreprise, choisissez de devenir ingénieur informatique, cadre commercial ou technico-commercial, ou bien cadre dans des services administratifs, ou enfin ingénieur en industrie. Si vous préférez le côté service à la personne, alors il faudra que vous deveniez infirmier, aide-soignant, aide à domicile, médecin ou profession paramédicale.
Alors, rien côté industrie dont on nous annonce pourtant le renouveau.
Alors, si on peut s'attendre à des forts besoins d'ouvriers qualifiés ou non, en manutention ainsi que des techniciens et agents de maîtrise en maintenance.
On imagine que ces besoins en emploi ne seront pas tous aussi facilement comblés. Hein.
Oui, et c'est là l'un des défis qui nous attendent. La question n'étant pas en fait tellement de savoir quels sont les métiers qui vont embaucher, mais plutôt ceux qui sont à risque de ne pas voir suffisamment de personnes aller vers eux. Au classement de ces métiers en fort déséquilibre, où les embauches ne compenseront pas les départs à la retraite, on trouve d'abord les agents d'entretien, les aides à domicile, les conducteurs, mais aussi les assistantes maternelles, les aides-soignants et même les enseignants et les agriculteurs. Et il y a là de quoi avoir le vertige en reprenant cette liste des métiers en tension. Agent d'entretien, aide à domicile, conducteur, assistante maternelle, aide-soignant, enseignant et agriculteur. Quelle société peut se passer de tous ces emplois absolument essentiels ? Quelle société peut aussi se passer de tout ce volant d'emplois qui, pour beaucoup, offre une stabilité à celles et à ceux qui n'ont pas eu la chance de faire de longues études? Eh bien, je ne sais pas.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça?
Eh bien, on est dans un sujet de réflexion de moyen terme qui exige des décisions immédiates. Comment orienter nos jeunes vers des métiers en tension? Comment faire en même temps que ces métiers deviennent plus attractifs à la mesure du rôle crucial qu'ils jouent dans notre économie et dans notre société?
Merci beaucoup, Maxime, pour ces principaux renseignements de cette étude réalisée, je le rappelle, par France Stratégie. Allez, nous, on continue tout de suite notre émission avec nos 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, 7 minutes pour changer le monde pour terminer cette émission consacrée à la jeunesse européenne. Et je suis avec Guillaume Callot, DG, directeur général et fondateur des Arc Film Festival. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc une émission consacrée à l'Europe que vous venez clore aujourd'hui pour nous évoquer les Arc Film Festival. Vous faites partie du collectif, du réseau, de l'écosystème de la Fondation Hippocrène. On vient de le voir avec Dorothée Merville au début de cette émission. Racontez-nous un peu l'histoire, la genèse des Arc Film Festival, Guillaume.
Alors les Arc Film Festival, c'est un festival de cinéma européen que nous avons fondé en 2009, donc ça va être la 15e édition que nous préparons, et c'est un festival qui est tourné vers l'Europe, vers ses sujets, vers ses cinéastes, ses artistes, vers son industrie cinématographique également, puisque nous avons des événements professionnels qui font à la fois le renouvellement du cinéma, puisque on est sur des rencontres autour de projets de films, mais également sa diffusion, la diffusion du cinéma européen en France, avec des rencontres entre les distributeurs de films, ceux qui ont un mandat pour le pays pour la France en l'occurrence, et les exploitants de salles, donc les gens qui tiennent les salles de cinéma. Voilà, donc on est un petit peu sur toute la chaîne
cinématographique. Tout se passe au moment du festival ou ça se passe tout au long de l'année? Est-ce que c'est un peu comme à Cannes où on va retrouver justement tout l'écosystème cinématographique en un seul et même lieu sur la croisette? Est-ce que c'est la même chose pour le cinéma européen et les Arc Film Festival?
Oui, concernant le festival, on a ces temps forts professionnels qui sont vraiment concentrés sur la semaine, puisque comme il y a beaucoup de gens qui viennent d'un petit peu toute l'Europe, c'est des temps qu'il faut qu'ils soient contraints. Mmh. Et pareil pour les projections de films, on a envie que ce soit festif, on a envie que ce soit sympa. Donc tous les spectateurs, on a plus de 20 000 spectateurs chaque année, viennent vraiment sur cette période qui en plus à l'ouverture de la saison de ski, puisque les Arcs c'est une station de ski, donc on est la semaine d'ouverture juste avant Noël. il y a de la neige, c'est sympa. Donc c'est à la fois un endroit où il se passe des choses, on travaille, on découvre des films, on rencontre, on tient beaucoup à ce que les spectateurs rencontrent les artistes, mmh. mais c'est aussi un endroit où on s'amuse, on profite de ce que la montagne a à offrir.
En hiver, voilà. Et le cinéma européen se porte... Il plutôt pas mal quand on est en France, on est un petit peu chauvin, on a un double regard, on a le regard de ce qui nous est imposé de l'outre-Atlantique, et puis il y a le regard qui nous est imposé parce que on est un pays qui produit énormément de films. Mais comment se porte globalement le cinéma européen? Il y a des patries du cinéma, il y a des pays qui aujourd'hui ont une production intéressante qui est peut-être invisible à nos yeux et dans nos salles françaises.
Oui, il y a beaucoup de pépites. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller justement décloisonner des choses, des films, des réalisateurs et réalisatrices, puisque souvent, ils sont dans leur pays, ils font des films, et puis on va pas forcément les voir, puisqu'ils vont pas trouver de distributeur en France. Il faut dire qu'il y a quand même déjà beaucoup, beaucoup de films qui sortent en France. Entre les films français et les films, en effet, anglo-saxons, ça fait déjà un bon remplissage des salles, mais pourtant, l'Europe se raconte beaucoup au travers de sa culture, et le cinéma est singulièrement un médium qui est... Qui va montrer de manière visuelle, sonore, on ressent les choses, on comprend la culture, on voit des paysages, on voit des vies, et c'est vraiment pour nous très intéressant de comprendre l'Europe à travers le cinéma. Puis voilà, puis c'est tellement agréable d'aller au ciné, hein. Je pense que
c'est pas faux.
Je l'apprends à personne. Donc voilà, oui, le cinéma européen se porte plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il a encore besoin d'un gros effort pour être mieux diffusé. Et c'est vraiment ce à quoi on œuvre.
Ce que vous travaillez. On parlait de l'écosystème Young Inspiring Europe. Pourquoi c'est important pour vous, cet écosystème? Qu'est-ce que vous venez y chercher? Vous revenez tout juste de la soirée qui s'est tenue à Paris jeudi dernier pour souligner la force et l'anniversaire de cet écosystème.
Oui, l'écosystème, c'est assez intéressant parce qu'en effet, on est tous allés chacun de notre côté présenter des projets autour de l'Europe et puis de la jeunesse, puisque nous avons un tiers de nos spectateurs qui sont du jeune public, et on est allé voir la Fondation Hippocrène qui nous a soutenus. Puis un jour ils se sont dit, mais puisque tous ces gens-là travaillent autour du thème de l'Europe et de la jeunesse, peut-être qu'on peut les fédérer et voir s'ils peuvent faire des choses ensemble. Et alors ça marche pas avec tous, hein, parce qu'on n'a pas forcément des sujets qui
sont en commun et qui matchent avec tout le monde, bien sûr, oui.
Mais voilà, parfois on a des projets hein, qui marchent ensemble. Nous on est assez tourné aussi autour de l'écologie, donc avec On est prêt, on a collaboré. Et puis même sans forcément collaborer, juste le fait de se voir de temps en temps et de sentir qu'on est plusieurs à travailler autour de l'Europe, et ça peut être parfois inspirant d'entendre les autres, de voir l'énergie qui est déployée, de comprendre, voilà. Quand j'étais le jeudi soir à cette réunion, j'ai pu parler avec des personnes, par exemple, d'AnimaFac, et qui me disent que dans les facs, il y a des associations qui se montent autour du cinéma et qui pourraient être intéressées par le festival. Voilà, c'est des choses comme ça. Hein. On travaille aussi avec EuropaVox, qui est un festival de musique.
Qui seront nos invités très, très prochainement, d'ailleurs, dans l'Écho des Solutions.
Voilà. Et voilà, donc c'est vivant. C'est vivant, et c'est vrai que c'est sympa, c'est intéressant d'échanger. C'est aussi intéressant d'échanger sur les difficultés qu'on peut avoir, hein, parfois de parler d'Europe, parce que c'est pas le sujet le plus
sexy de la terre, hein.
et c'est dommage, parce que franchement il y a tellement à dire.
Exactement.
C'est tellement enthousiasmant, je trouve que c'est porteur d'avenir, donc faut dépoussiérer un petit peu ensemble cette image, et nous on s'y applique. En tout cas,
c'est tout le paradoxe de la question européenne, c'est à la fois si loin, si proche, loin pour tout le monde et si proche dans nos vies quotidiennes. Merci beaucoup Guillaume Callot d'avoir été notre invité de cette 7 minutes pour changer le monde. Nous on se quitte pour mieux se retrouver. On se retrouve la semaine prochaine dans l'Écho des Solutions sur RCF, 12h, 13h et où vous voulez, quand vous voulez, en podcast. Vous pouvez écouter d'ailleurs toutes les rubriques séparées sur rcf.fr ou nous retrouver sur les plateformes avec l'émission complète, on dit unifiée. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. À très bientôt, au revoir.